connaître l'impact dans votre vie. Dans votre vie. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je parle toujours avec Madame Jessica Turmel, que j'ai fait rigoler parce que j'ai perdu mon idée en chemin, que j'ai retrouvé évidemment pendant la pause, c'est toujours comme ça. On parlait évidemment des victimes élargies, donc des familles, mais c'est pas juste le père, la mère aussi direct que ça, c'est on a tous, à peu près tous dans nos familles, entendu parler d'un cousin, un oncle, une nièce qui va pas bien, qui est accroché, qui amène les autres comportements destructeurs que ça prend pour se procurer cette dope-là et qui s'enfonce dans des trucs dont ils sortiront peut-être pas. Donc, c'est beaucoup plus courant qu'on pense, puis on peut pas se fermer les yeux comme ça sur une partie de la population.
Oui, effectivement. Beaucoup plus courant qu'on pense. Encore très tabou. On stigmatise encore beaucoup la consommation comme si c'était une question de choix un peu... Oui. Bon, ben, il a choisi de consommer, qui s'arrange avec ses doutes. Donc, les gens ont peur d'en parler. Les gens ont peur de s'ouvrir là-dessus. Puis, faut
vous parlez de choix. Je veux juste illustrer pour nos auditeurs. Souvent, tu as l'impression que tu as juste deux choix parce que c'est tellement souffrant. Tu n'as pas d'autre choix. Tu vas prendre quelque chose pour t'accrocher un sourire 5 secondes ou tu vas mettre fin à ta vie. Des fois, le choix, c'est ça. Alors, il faut faire attention quand on parle de choix, hein, Mme Turmel?
Oui, effectivement, on dit un choix, mais justement, un choix par rapport à quel autre choix? Et l'être humain, dans sa nature, cherche le bonheur, cherche à supprimer les émotions qui lui paraissent négatives. Donc, il y a des gens pour qui la vie est pas facile, des gens qui ont des vulnérabilités au niveau individuel. Par exemple, quelqu'un qui est très anxieux de nature peut aller vers l'alcool parce que ça lui fait du bien. Donc, c'est pas de la stupidité, c'est de l'adaptation. Mm-hmm. Mais une adaptation qui peut causer des problèmes à long terme.
Mais plus t'es anxieux, plus t'as des chances que l'alcool fasse pas partir, ne chasse pas l'anxiété. Donc, tu vas continuer à boire. Mais c'est un anxiolytique, l'alcool, que, je veux dire, si les compagnies pharmaceutiques avaient retrouvé comment fabriquer la molécule, ils seraient encore plus riches qu'ils sont maintenant. Qui a pas dit, après, à la fin d'une journée stressante au bureau, la première bière va être bonne? C'est ça, c'est que c'est la première qui est bonne. Mais après ça, avec les autres, t'essayes d'imiter la première. C'est ça qui marche pas.
Puis on banalise beaucoup l'alcool, alors que c'est une substance. Les autres substances fonctionnent comme ça, avec chacun leurs effets. Mais le problème, en fait, c'est que sur le moment, ça rend la personne plus joyeuse, plus calme ou plus stimulée si c'est un stimulant. Mais par la suite, le cerveau est un peu vidé. On a été surstimulé le cerveau, puis par la suite, la personne se sent à l'inverse. Donc, quelqu'un qui est très anxieux, qui va prendre beaucoup d'alcool, sur le moment, va se sentir mieux, mais ensuite, va avoir tendance à devenir de plus en plus anxieux, ce qui peut l'emmener à consommer de plus en plus. Mm-hmm. Puis là, son humeur devient comme un yo-yo. Là. Avec la consommation, je suis bien. Sans la consommation, je me sens de pire en pire. Et l'humain, quand on parle de souffrance, là, ça peut être profond, une souffrance. Donc, c'est important d'avoir un peu d'empathie par rapport à cette façon que certaines personnes ont de justement de s'auto-gérer, d'essayer de se médicamenter, d'essayer tout simplement d'être heureux, d'aller mieux, en fait.
Et de s'adapter. Je comprends très, très bien ce que vous dites. Puis évidemment, l'indifférence puis le mépris ne peuvent pas soigner. Ça fait l'inverse. Ça renfonce la personne. Je comprends que c'est difficile à regarder, des fois. On va juste prendre un appel, si vous le voulez bien. On prend Christian. Salut, Christian.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Moi, c'est sur le fentanyl à cause de ma maladie.
Légalement?
Depuis 2003.
Oui, mais vous l'êtes légalement?
Pardon? Oui, c'est légalement.
C'est prescrit. Okay.
Oui, c'est prescrit. Mais ça amène beaucoup d'effets secondaires. Là, c'est rendu que je suis obligé d'avoir un appareil pour respirer la nuit parce que le cerveau n'envoyait plus le signal de respirer pendant que je dormais. J'étais super épuisé, ça fonctionnait plus pantoute. Puis là, avec l'appareil, ça m'a redonné de l'énergie. Je continue à prendre mes fentanyl. J'ai essayé d'arrêter, mais la douleur était parce que moi, c'est l'arthrite psoriasique dégénérative.
Okay.
Fait que je prends du Dilaudid entre, au besoin, peut-être un comprimé aux 2-3 jours de 4 mg. C'est quand même beaucoup, je sais que c'est très,
le Dilaudid, très d'autant plus, monsieur, je peux juste vous faire une petite parenthèse, parce que j'ai eu un accident de VTT, j'ai eu plusieurs fractures, une clavicule arrachée, émiettée, tout ça. Alors, j'étais sur le Dilaudid, puis à un moment donné, j'ai dû arrêter, j'étais trop down. j'étais déprimé. J'ai dit, bon, ça suffit, on va se terminer au Tylenol, ça va être comme ça. Puis là, maintenant, je prends plus rien. Mais j'ai j'ai parlé à quelqu'un qui connaissait ça, mais il dit, c'est un puissant dépresseur, le Dilodine. Alors, faut savoir ces effets secondaires-là qui sont souvent plus forts que l'effet qu'on veut leur faire faire.
Exactement.
Ben Christian, les questions que ça vous pose, je comprends que ça vous inquiète. Je l'ai posé au docteur Sader. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel de Christian qui, lui, prend du fentanyl, un peu d'ilodide aussi, prescrit, mais il n'a pas l'air super rassuré de ce qu'il prend, là.
Non, mais écoutez, tant et aussi longtemps qu'il prend la dose nécessaire pour couvrir la partie douleur pure, en général, ils n'ont pas de problème. Mais c'est difficile de pas dépasser cette dose-là des fois, puis d'avoir un peu qui affecte la partie souffrance ou la partie émotionnelle. Tu sais, c'est rare de voir des personnes avec de l'arthrite psoriasique qui prennent des médicaments aussi forts, mais ça l'arrive. Tu sais, il y a des syndromes douloureux qui exigent des choses plus fortes, mais il n'y a pas besoin trop de s'inquiéter parce que c'est du fentanyl. C'est pas le fentanyl, le gros méchant. C'est le dosage, c'est comment tu t'en sers, pourquoi tu t'en sers, qu'est-ce que tu gères avec ça. T'sais, moi, j'ai un exemple pour moi-même.
Monsieur Sader, je vais juste mettre fin à votre exemple. On a fini. Faut sortir, je suis désolé.
Correct.
Mais vous êtes tellement intéressant. C'est John Sader qui est médecin spécialiste en traitement des dépendances. Merci beaucoup, Monsieur Sader.
Et Jessica, ça me fait plaisir.
Et Jessica Turmel, spécialiste en dépendance et prévention, psycho-éducatrice. On a essayé de vous éclairer un peu plus sur tout ce que c'est ça. Et puis faire couper les légendes. Nous, on se revoit demain. Prenez soin de vous autres.